François. Dernier livre, donc, c'est le second tome de La misère symbolique. Alors moi, je l'ai dit à la française, la catastrophe du sensible. En fait, c'est un mot grec, donc comment il faut prononcer la
catastrophe.
Catastrophe du sensible. Alors, vous le dites au début de ce livre, Bernard Stiegler, et nos auditeurs connaissent vos livres, même s'ils ne les lisent pas, puisque ça fait longtemps qu'on vous reçoit dans cette émission. Au début de ce livre, vous dites que tous vos livres, s'ils ne se répètent pas, fonctionnent en une sorte de vaste réseau, donc évidemment, à chaque fois, je vous fais un peu répéter la même chose. Donc, de la misère symbolique, quelle définition vous pourriez donner ? Quelle est cette misère symbolique ?
La misère symbolique, c'est la captation de la libido des individus, aussi bien des consommateurs que des producteurs d'ailleurs, mais surtout aujourd'hui des consommateurs, en vue d'attirer leur désir vers les objets de la consommation, et qui consiste, pour pouvoir être efficace, finalement, à réduire ces consommateurs à un statut purement passif, et en particulier à rendre impossible leur singularité, l'expression de leur singularité, à les massifier, et à finalement conduire à ce que j'appelle, avec un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon, la perte de leur individuation. Et je pense que l'individu du 21e siècle qui consomme est un individu qui souffre profondément, qui souffre de perte de narcissisme, qui perd finalement le sentiment de soi, le sentiment d'exister. La dernière fois que je suis venu ici, d'ailleurs, tout à fait par hasard, au journal des 18h, on avait annoncé la plaidoirie du procureur, je ne retrouve plus son nom, mais pour le cas Brunnery qui avait tenté d'assassiner Monsieur Chirac, le procureur avait demandé la clémence, ce qui est tout à fait étonnant, et il avait dit finalement cet homme ne trouve plus le moyen d'exister, il a commis cet acte par souffrance existentielle. Étant donné que j'avais moi-même pointé dans un livre que Richard Durne avait dit exactement la même chose dans son propre journal intime avant de massacrer 8 personnes de Nanterre, évidemment, je vois là non pas simplement une coïncidence, mais une tendance profonde. Et cette tendance, nous en souffrons tous, en réalité. Alors, dans ce livre, qui était La misère symbolique, tome 1, dont le sous-titre était L'époque hyper-industrielle, où j'essayais de montrer que le capitalisme est devenu essentiellement, comme dit Jeremy Rifkin, un capitalisme culturel. C'est-à-dire que il utilise la culture essentiellement pour contrôler le comportement des individus en vue de leur faire consommer le maximum de produits dans le sens des intérêts de l'investissement industriel et capitalistique. Dans ce second tome, j'essaye de montrer qu'il y a à penser maintenant ce processus-là, non pas en termes de déclaration et description de ses effets, mais en termes d'analyse de sa causalité et surtout de ses possibilités de sortie.
Très bien, alors je vous interromps Bernard Stiegler parce qu'évidemment l'info prime. Bruno Duvic, nous avons Marc Répin, notre correspondant à Washington, donc on le prend tout de suite.
Oui, Maison Blanche et Capitole évacués ce soir à Washington comme un climat de panique dans la capitale américaine pendant quelques minutes. Un peu plus de calme à présent, Marc Répin.
Oui, il semble que maintenant le Secret Service, vous savez, il s'agit des services chargés de la sécurité, donc des bâtiments sensibles, mais surtout du président et du vice-président, ils viennent de donner le signal pour lever cette alerte. Un objet non identifié, probablement un avion, est entré dans l'espace aérien de Washington tout à l'heure. Et dans ce cas, c'est une procédure extrêmement stricte qui est déclenchée. Le Capitole, qui abrite bien sûr les deux chambres du Congrès, la Maison Blanche, ont été aussitôt évacués. Le Capitole, ce n'est pas la première fois, mais la Maison Blanche, c'est la première fois. On ne sait pas si George Bush a été évacué. On sait qu'il était parti ce matin faire du sport, du vélo exactement. On ne sait pas s'il était rentré. Entre-temps, des chasseurs ont aussi décollé de la base d'Andrews à une trentaine de kilomètres de Washington pour essayer d'identifier cette menace. On ne sait pas s'ils y sont parvenus, mais en tout cas, apparemment, tout semble rentrer dans le calme. Il y a 15 jours déjà, un avion inconnu était entré dans l'espace aérien de Washington. C'était une fausse alerte. On espère que cette fois-ci, ce sera encore une fausse alerte.
Et donc, alerte levée ce soir, Marc, selon les autorités à Washington. Il y a quand même eu quelques minutes de panique. Je vous lis juste cette dépêche Reuters que nous avons reçue à 18h09. L'ordre est donné de courir loin du Capitole. Nous détaillerons cette information. Nous vous la raconterons dans le journal de 19h avec Lise Joly. Merci Frédéric.
Bruno, évidemment, vous restez dans les parages si on en sait un peu plus. Et Marc Répin est toujours au téléphone à Washington. Il intervient quand il veut. On va reprendre le fil normal de cette émission. Bernard Stiegler avec vous de ce Charivari pour ce nouveau livre, donc qui est le tome 2 de La misère symbolique. Là, je vous demandais une définition, Bernard Stiegler. Vous me l'avez donnée au début de ce livre. Vous dites que vous êtes non pas un philosophe en armes, peut-être pas, mais en tout cas un philosophe en lutte, hein, et que au sein de notre société, de nos sociétés occidentales d'ailleurs, plus généralement, il y a une guerre esthétique. Quelle est cette guerre ?
Eh bien, actuellement, nous vivons l'époque de ce que je crois devoir qualifier, à grand regret, un populisme industriel. Je pense que une partie, plus ou moins irresponsable à mon avis, du monde entrepreneurial et industriel, tend à cultiver des comportements addictifs. On parlait tout à l'heure au journal de 18h de l'augmentation encore de la fréquentation de la télévision, tout en soulignant
de la consommation télévisuelle,
de la consommation télévisuelle, 2 minutes supplémentaires encore, 3h26, j'ai bien compris, tout en soulignant que la majorité des Français trouvent que la télévision est mauvaise et se plaignent de la télévision. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un comportement addictif, typiquement. Les drogués qui souffrent, par exemple, de l'héroïne, parce qu'à un moment donné, la drogue crée de la souffrance.
Ils savent que ça les tue.
Savent que ça les tue, mais ne peuvent plus s'en passer. Nous en sommes là. Et ça, c'est ce qui est produit par un populisme industriel qui consiste finalement à produire de l'avilissement. Parce que pendant des décennies, la captation du désir par la grande industrie qui s'est développée aux États-Unis, la théorie de tout ça a été développée aux États-Unis par plusieurs grands penseurs, dont Edward Bernays, qui était le neveu de Freud, qui avait développé une théorie de l'inconscient appliquée à la politique industrielle. Cette démarche a produit de belles œuvres. Hollywood a été conçu sur cette base-là. Et Hollywood a produit toutes sortes de choses magnifiques. La télévision elle-même et la radio, aujourd'hui encore, heureusement, font des choses très intéressantes et qui contribuent...
Pardon, mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette captation de la libido n'est pas mauvaise en elle-même, en soi, qu'elle n'est pas condamnable en tant que telle.
Pas du tout. Toutes les sociétés captent la libido. Toute société, un chaman capte la libido de la tribu indienne dans laquelle il vit. Un prêtre capte la libido des fidèles. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il faut aimer le corps de Jésus, y compris à le manger, etc. Ça s'appelle finalement les processus de sublimation. Mais nous sommes en train dans une société qui capte la libido et qui, en la captant, la détruit. Et cela signifie plus précisément que, au lieu de capter cette libido pour la tirer vers ce que j'appelle des sublimités, c'est-à-dire des choses de la sublimation, des œuvres d'art, des œuvres de l'esprit, des exploits sportifs, des élévations, des manières de s'élever, la libido aujourd'hui était détruite par la massification de son contrôle, et cette destruction fait que maintenant, la télévision en particulier, tend à viser les pulsions et non plus simplement le désir. Et c'est pour ça qu'on a affaire à la télé-réalité, qu'on a affaire à ce qu'on appelle la trash TV, etc. Et c'est extrêmement dangereux parce que autant la libido, c'est ce qui lie ensemble des pulsions qui s'opposent, qui sont la pulsion de vie et la pulsion de mort, et ce qui permet de sublimer ces pulsions, dont la sexualité, qui est une pulsion, une pulsion de reproduction, mais que le désir sublime. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que le désir sublime la sexualité? Ça veut dire que si j'aime quelqu'un d'amour et d'amour charnel, je ne lui saute pas dessus pour le consommer. Aimer quelqu'un, ça veut dire lui faire la course, ça veut dire essayer d'instaurer une relation dans la durée, dont le passage à l'acte sexuel n'est qu'un moment. Mais ce qui est intéressant, c'est justement tout ce qui précède et tout ce qui suit ce moment. Eh bien, la relation à une œuvre d'art, c'est pareil. On cultive la relation à une œuvre d'art. On cultive la relation aux mathématiques. On cultive la relation au monde politique, etc. Et ça s'appelle, ou religieux, si on est dans ce monde-là. Et ça s'appelle la sublimation. Et la sublimation consiste à s'élever. Or, la captation du désir étant destructrice, on vise maintenant le pulsionnel, et le pulsionnel consiste à avilir systématiquement, à faire une espèce d'immense, comme aurait dit Pasolini, porcherie, dans laquelle nous savons tous que nous vivons maintenant. Je dis que par rapport à ça, aujourd'hui, nous atteignons un processus qui atteint sa fin. J'appelle ça une catastrophe, au sens où, d'une part, c'est une catastrophe, parce que c'est extrêmement dangereux dans une société surarmée comme la nôtre, de faire. Il faut savoir que les Chinois, par exemple, il y a eu une chronique il y a un mois sur France Inter, le matin, il y a 20% de Chinois qui sont en dépression avérée et suivis médicalement. Ça fait 200 millions de personnes. C'est absolument 230 millions de personnes. C'est absolument effarant.
Et pourtant, je suis pas du tout un spécialiste de ces problèmes-là économiques. Et pourtant, Bernard Stiegler, on pourrait vous dire que la Chine n'en est pas tout à fait au même stade du capitalisme ou de ce que vous appelez une société hyper-industrielle que nous.
Oui, mais en même temps, les études qui ont été faites, parce qu'il y avait déjà eu un article dans Le Monde au mois de septembre dernier sur ce phénomène, qui est vraiment une pathologie de masse, attestait que les problèmes étaient liés essentiellement. Ça se produit chez les gens qui sont ce qu'on appelle les nouveaux riches, c'est-à-dire les gens qui accèdent au marché. Et c'est une pathologie qui est engendrée par la consommation, qui apparaît incompatible avec la culture chinoise.
Et cette pathologie qu'on appelle une dépression, effectivement, vous, Bernard Stiegler, je me souviens que dans un livre précédent, et dans une émission, vous m'en aviez parlé, au moins dans une émission, vous appeliez ça la débandade.
Oui, parce que je pense que, du coup, ce qui est en train de se produire, c'est un effondrement du système libidinal du capitalisme, sachant que le marché fonctionne exclusivement à la libido. Ce qui fait que le marché marche, c'est qu'on aime des choses, qu'on désire des choses. Si le désir s'effondre, c'est le marché qui s'effondre. Donc, il y a là quelque chose qui est dans une grande débandade économique, sur laquelle on fait des replâtrages, qu'on masque, etc., de manière totalement artificielle. On dit, il faut relancer la consommation. Mais je dis non, il faut relancer le désir. Et à ce moment-là, on retrouvera de la consommation. Alors, la question qui se pose là, c'est la question d'un processus catastrophique. Mais en même temps, dans ce livre, ce que j'essaye de penser, c'est ce que j'appelle une catastrophe au sens des Grecs. Car chez les Grecs, la catastrophe, ce n'est pas une catastrophe simplement, c'est une issue. C'est la fin d'une histoire.
Et c'est là où il faut insister. Parce que quelqu'un qui pourrait être en train de vous écouter pourrait se dire, tiens, voilà encore un prophète de mauvais augure. Voilà un imprécateur qui nous annonce la grande catastrophe, la fin du monde, que sais-je. Or, c'est pour ça que vous tenez au terme grec de catastrophe, parce que donc, comme vous venez de le dire, c'était effectivement une catastrophe avérée sous nos yeux. Nous en voyons les symptômes. Vous avez en particulier travaillé sur le 21 avril et la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Mais il y a aussi, selon vous, une issue.
Oui, il y a une issue qui est ouverte par une évolution que j'appelle organologique, c'est-à-dire par l'évolution des techniques, d'une part, et par le fait que, par ailleurs, le monde entier souffre de cette situation et qu'on cherche à cette situation des issues partout. Y compris Star Academy est un symptôme de cette recherche. Car, à partir du moment où TF1, qui développe ce système de Star Academy, évidemment, pour capter la libido, et qui évidemment produit ce que Andy Warhol a appelé des quarts d'heure de célébrité, qui ne sont que de la frustration, parce que c'est un processus déceptif, en réalité, Star Academy. En réalité, c'est déceptif, mais en même temps, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a un désir d'exister, de symboliser, de se projeter, de s'exprimer, qui s'affirme, et qui s'affirme aussi dans les blogs, qui s'affirme dans Internet, qui s'affirme dans toutes sortes d'activités. Et il y a là un potentiel de développement économique formidable. Donc, moi je dis, il faut développer une nouvelle politique de cette technologie, que j'appelle une politique industrielle de l'esprit. Je dis que, par exemple, le téléphone portable qui maintenant sert à regarder des photos, qui sert à échanger toutes sortes de choses, pourrait devenir une plateforme d'échange symbolique, à la condition que les pouvoirs publics et que le monde industriel prennent conscience de la nécessité de le faire et décident d'investir durablement dans ce domaine.
Et ce qui est particulièrement intéressant dans votre travail, Bernard Stiegler, c'est que vous avez prononcé ce mot, alors moi qui m'est presque étranger, je dois dire le mot de blog. Donc ces journaux intimes dont les adolescents sont de grands producteurs et consommateurs, parce que maintenant chaque ado, par l'intermédiaire de quelques radios musicales concurrentes d'ailleurs, peut faire son blog. Mais vous dites, c'est pas forcément n'importe quoi, c'est pas forcément condamnable, c'est pas forcément débile.
On trouve des choses formidables sur les blogs, on trouve des choses formidables, et on sent qu'il y a un désir d'investir ces nouvelles formes. Je vais employer un autre mot grec, d'hypomnémata. Pourquoi est-ce que je parle d'hypomnémata?
Expliquez-moi ce que ça veut dire.
C'est un hypomnésis en grec, ça veut dire support de mémoire artificielle. Tout ce que nous utilisons, la radio est un support de mémoire artificielle et de communication. L'écriture était un support de mémoire. Michel Foucault écrit un très, très beau texte qui s'appelle L'écriture de soi. Il montrait que les gens de ce qu'on appelait l'osium dans le monde romain, où les clercs, y compris les saints, les moines, etc., avaient des pratiques des hypomnémata, qu'à travers ces techniques, ils développaient une culture de soi. Ils cultivaient une certaine liberté de la pensée en utilisant la relecture de leurs notes, en développant des pratiques épistolaires, etc. Ces hypomnémata, aujourd'hui, nous en avons sous forme électronique. Et il faut, la civilisation occidentale s'est constituée sur la base d'une hypomnèse. Quand on dit les gens du livre, la civilisation du livre, qu'on le dise du point de vue du monothéisme ou du point de vue de la philosophie ou de la science, c'est une pratique d'une mnémotechnique. Ces mnémotechniques, au début, elles servaient, lorsque les Égyptiens, les Mésopotamiens les ont mises au point, à gérer des stocks, à contrôler des travailleurs, des esclaves, etc. Et puis les Grecs ont inventé une civilisation en renversant le sens des hypomnémata, en faisant un espace juridique, d'une part, et d'autre part, un espace de culture, des idéalités mathématiques, du droit, de la géographie, etc. La civilisation occidentale et le monothéisme compris, ont proliféré sur une culture de ces hypomnémata. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde d'hypomnémata. Internet, c'est une forme d'hypomnémata. La télévision aussi, le cinéma aussi. La télévision n'est absolument pas condamnée à produire de la débilité. La télévision pourrait évidemment, surtout au moment où elle se numérise, devenir un instrument de culture. Où on pourrait cultiver des choses sublimes.
Mais il y a un moment du livre, Bernard Stiegler, vous dites quelque chose qui est très intéressant. Vous dites, en fait, on est dans une société où cette guerre esthétique dont vous parlez, qui est bien sûr aussi une guerre politique, et évidemment une guerre économique, parce que ces captations de libido et de désir dont vous parlez, ça crée du profit. C'est quand même ça le but.
C'est pour ça.
Voilà. Vous dites, il y a une notion très importante qui est en train de disparaître totalement. C'est la fonction de répétition. Et c'est là où on en arrive à l'œuvre d'art. Évidemment, dans la fréquentation des œuvres d'art, tout le monde le sait bien. Les livres qu'on aime, on les relit. Les peintures qu'on aime, on les regarde à nouveau jusqu'à ce qu'elles se lèvent, vous dites, en employant l'expression d'un historien d'art qui s'appelle Daniel Arras, qui prend ce terme de se lever pour parler quand un tableau se révèle enfin à vous. Donc la répétition est quelque chose de très important dans l'enseignement, évidemment. Pourquoi cette notion de répétition disparaît-elle ?
Eh bien, là, si vous voulez, sont apparus au 19e siècle et surtout au 20e siècle ce que j'appelle des appareils qui ont produit un tournant machinique de la sensibilité. Le phonographe, par exemple, a fait en sorte que les gens qui écoutaient de la musique en la jouant au piano ont cessé de jouer du piano et se sont mis à écouter des disques. À partir de là, ils ont cessé d'avoir une pratique des œuvres et ils sont devenus progressivement des consommateurs. Il est évident pour n'importe quel amateur de musique qu'une musique, ça s'écoute plusieurs fois. Il est tout aussi évident que l'industrie culturelle est une industrie de flux qui tend à faire passer les choses les unes derrière les autres.
C'est-à-dire qu'un clou chasse l'autre, comme on dit.
Un clou chasse l'autre. Et du coup, il n'y a plus de pratique de répétition. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, ces nouvelles formes d'hypomnémata qui ont permis cette disqualification, finalement, des destinataires des œuvres, qui ne sont plus en mesure d'entendre les œuvres comme elles devraient l'être. Parce que pour entendre une œuvre, pour regarder une œuvre, il faut être dans la répétition de l'œuvre. Je suis allé au musée l'autre fois, Picasso. J'ai regardé l'exposition Bacon Picasso. Et j'étais émerveillé. D'abord de voir ma propre fille, qui a 6 ans, se mettre par terre et se mettre à dessiner les œuvres. Et de voir que beaucoup de gamins faisaient la même chose. Pourquoi ? Parce que à l'éducation nationale, il y a des profs qui ont pris l'habitude d'emmener les enfants dans les musées pour les faire copier. Il faut savoir que le musée du Louvre était un lieu de copie auparavant. Monet, Degas, tous ces gens-là venaient au Louvre, non pas simplement pour regarder les œuvres comme ça, mais pour les copier.
Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Comme les grands couturiers, pardon, pour prendre un art mineur, peut-être avec des guillemets, racontent que pour comprendre comment est faite une robe, il faut défaire la robe.
Absolument.
Comme un mécano.
Et Cézanne disait, ce que je ne peux pas montrer, je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que je ne vois vraiment une montagne, par exemple la montagne Sainte-Victoire, que si je suis capable de la montrer. À l'école, quand on demande à un gamin ce qu'il a compris d'une pièce de Racine, on lui demande de faire une explication de texte ou un résumé, ou on lui demande d'exprimer ce qu'il a senti. C'est-à-dire qu'on ne sent que ce qu'on est capable de faire sentir aux autres. Il y a une part de motricité, d'activité dans le sensible qui est capitale. Ces technologies que sont les appareils qui ont engendré ce tournant machinique de la sensibilité ont disqualifié les gens. Mais aujourd'hui, elles peuvent être utilisées pour les requalifier. Et d'ailleurs, moi je me suis intéressé à beaucoup d'artistes, dont Charlie Parker, il y a fort longtemps, parce que Charlie Parker, Ross Russell, son biographe, disait, il avait deux instruments de musique, son saxophone et son phonographe. Charlie Parker a appris la musique en écoutant sur les disques la musique de Lester Young, qu'il ralentissait, qu'il répétait, il analysait les chorus, et après, il les rejouait. Aujourd'hui, toutes ces techniques qui sont disponibles, qui sont des hyponématas, au sens où j'en parlais tout à l'heure, permettent de développer des pratiques de répétition. Il y a donc véritablement une possibilité de sortir, et c'est ça que j'appelle la catastrophe, c'est-à-dire l'issue. Il y a une possibilité de sortir de cette situation d'avilissement et de refaire en sorte que les hyponématas crée de l'élévation.
On va vous retrouver tout de suite, Bernard Stiegler, pour parler de ce livre, du tome 2 de La misère symbolique, La catastrophée, donc du sensible, et on va écouter eh bien un air de musique, un air mineur, disait Serge Gainsbourg, mais il n'avait peut-être pas raison, Françoise Hardy, un air de guitare. Françoise Hardy, un air de guitare, et nous sommes avec Bernard Stiegler dans ce Charivari pour son dernier livre, le tome 2 de La misère symbolique, La catastrophée du sensible. C'est publié chez Galilée. Bernard Stiegler, il y a deux jours à votre place, était assis Pierre Dex, grand résistant, et dans son livre où il raconte Mauthausen, il cite un poème de Bertolt Brecht qui date du 17 juin 1953. Le 17 juin 1953 à Berlin-Est, il y avait eu des émeutes ouvrières. nucléaire qui avait été réprimé dans le sang par une démocratie populaire, ce qui n'était évidemment pas sans poser quelques problèmes. Et Brecht, qui pouvait très bien attaquer durement le régime de la RDA, disait que son gouvernement devrait peut-être penser à dissoudre le peuple et à en élire un autre. Or, quand on voit la campagne pour le référendum sur la Constitution européenne, en France, quoi qu'on pense, qu'on soit pour le oui ou pour le non, je suis pas en train de vous demander si vous êtes pour ou contre la Constitution européenne, on a l'impression que chez les dirigeants, dans les élites, chez le gouvernement, il y a peut-être cette tentation de dissoudre le peuple et d'en élire un autre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh oui, je suis très frappé moi aussi par cette... je trouve ça un peu consternant, inquiétant. Je pense que... alors le peuple, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon. Mais en tout cas, les citoyens français, et je crois que c'est vrai de beaucoup d'autres citoyens d'Europe, ont peur de l'Europe. Ont le sentiment qu'on est, je crois, qu'on n'est pas en train de construire l'Europe, mais qu'on est en train de détruire l'Europe. Y compris en disant, il faut mettre les peuples en concurrence les uns avec les autres. Sachant que les peuples mis en concurrence les uns avec les autres, sans autre motif que cette concurrence, ils finissent à un moment donné par s'agresser. En Europe, il y a eu beaucoup de guerres, deux guerres mondiales, sans parler de toutes les guerres qui l'ont précédé, qui les ont précédées. Et je crois que les Européens, les Français en particulier, ceux qui veulent voter non, ont cette peur. Il faut prendre cette peur très très au sérieux, et je crois que la seule issue pour lutter contre ce processus, c'est précisément d'affirmer une idée élevée de l'Europe. L'expression de la concurrence par le marché entre les peuples ne suffit pas à construire l'Europe, c'est impossible. Je dis pas ça contre le marché, c'est une autre question. Mais précisément, je crois moi que l'Europe se fera par une culture de l'Europe, c'est-à-dire par le développement par l'Europe d'un projet de reconstruire une autre société industrielle. Et une société industrielle qui, précisément, produise de la motivation, du désir, ce que j'appelle un motif européen, et non pas une démotivation massive. Aujourd'hui, il y a une énorme démotivation. Le modèle industriel qui domine le monde est un modèle caduque. Je pense qu'il est maintenu artificiellement et de manière forcée par toutes sortes de techniques de contrôle, précisément, mais que ces techniques sont de moins en moins efficaces et que ce modèle doit être profondément réinventé. La constitution de l'Europe, ça devrait être la constitution de ce nouveau projet industriel. C'est pour ça que je plaide, en réalité, pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc., sont des pays qui ont une richesse culturelle absolument exceptionnelle, mais pas seulement culturelle, industrielle. Le génie logiciel français est très connu. La puissance de feu des industries électroniques, etc., est très grande. Pourquoi l'Europe ne se construit-elle pas pour produire un nouveau modèle industriel ? Il y a un livre qui fait un certain succès, de Jeremy Rifkin, qui s'appelle « Le rêve européen ». Il dit que le rêve américain est terminé. Je crois que malheureusement, il a raison. Je dis malheureusement parce que c'est inquiétant. Y compris cette fausse nouvelle de tout à l'heure en est une expression. C'est une situation un peu de décadence, en tout cas de débandade. Il est indispensable que l'Europe porte un nouveau discours et constitue, je dirais moins, un rêve qu'un désir nouveau. Et je crois que ce désir nouveau passe par l'affirmation d'une culture européenne qui ne veut pas dire du tout homogénéiser toutes les cultures. Ça veut dire faire que toutes ces cultures convergent vers une certaine idée commune vers un esprit européen, reconstitue l'esprit européen.
Mais alors, Bernard Stiglitz, je tiens pas du tout à vous faire faire de la politique fiction ou de la prospective, mais si au lendemain du référendum, le soir du référendum, le non l'emporte par exemple, est-ce que le philosophe que vous êtes, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, sur ce que vous appelez le passage à l'acte, est-ce que vous considérerez qu'une victoire du non, une victoire hypothétique du non, constituerait un passage à l'acte, comme la présence de Jean-Marie Le Pen au soir du premier tour pour le second tour lors des dernières présidentielles était une forme de passage à l'acte?
Ça pourrait être un passage à l'acte, mais le mot passage à l'acte a deux sens. Il y en a même plus que deux. Il y en a un qui est le sens de la transgression malfaisante. Mais il y a aussi le sens d'Aristote, que j'étudie beaucoup dans ce livre d'ailleurs, qui est que à un moment donné, l'âme, ce qu'il appelle l'âme noétique, c'est-à-dire l'âme de l'être humain, qui est noétique, ça veut dire spirituel, parfois passe à l'acte, c'est-à-dire entre dans sa plénitude. Donc le passage à l'acte n'est pas forcément négatif. Quoi qu'il en soit...
Oui, ça ne veut pas dire forcément tuer sa voisine, ça veut pas dire écrire à la recherche du temps perdu.
Et par ailleurs, la transgression est souvent productive, et la transgression est souvent riche. Les œuvres d'art sont des transgressions, toujours. Aucune œuvre d'art qui ne transgresse n'est une œuvre d'art. Alors, quoi qu'il en soit, je ne veux pas prendre effectivement une position pour le oui ou pour le non, j'ai évidemment mon point de vue sur la question, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le 30 mai. Et je crois que, quoi qu'il arrive, que le oui ou que le non l'emporte, le 30 mai, ce sera une difficile journée, et ce sera le début d'une époque qui nécessitera un processus d'invention à nouveau frais.
Pourquoi une difficile journée ?
Parce que même si le oui l'emporte, il y aura des séquelles très importantes en France et en Europe, et l'Europe aura beaucoup tremblé, et elle ne cessera pas de trembler le 29 mai à minuit. Elle continuera à trembler de plus en plus, à mon avis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages qui concernent ces questions européennes, mais aussi pour laquelle j'ai créé une association, je suis en train de créer une association avec des amis, qui s'appelle Ars Industrialis. Dans cette association, il y a des gens qui votent oui et des gens qui votent non. Nous avons décidé de neutraliser l'opposition entre le oui et le non, mais nous, ce que nous voulons, c'est construire l'Europe, la constituer. Avec cette constitution ou par d'autres voies. Et nous pensons que pour constituer l'Europe, il faut aujourd'hui proposer de nouveaux modèles de société industrielle. Nous ne sommes pas du tout contre l'industrie, bien au contraire. Nous pensons que l'industrie est en train de s'autodétruire et que le capitalisme est en train de s'autodétruire et qu'il faut le relancer par une relance du désir. Alors nous avons créé un site, si vous me permettez, je vais vous donner l'adresse. Ça s'appelle arsindustrialis.org. Et nous voulons rassembler dans cette association des compétences de tous ordres, des artistes, des entrepreneurs, des banquiers, des économistes, des juristes, des citoyens, tout simplement, pour discuter sur des hypothèses de travail qui sont les nôtres, savoir la nécessité de reconstituer une économie libidinale dans le monde industriel, et de cesser l'avilissement généralisé.
Alors cette adresse internet, ce lien, comme on dit quand on est un peu plus fort en informatique que moi, vous le trouverez sur le site de Charivari. Donc Bernard Stiegler l'a dit un peu vite, mais il sera facile à trouver. Je voudrais qu'on termine cette émission qui passe un peu trop vite, Bernard Stiegler, en parlant de quelque chose qui est aussi au cœur de ce livre, de ce dernier livre, c'est le rôle de l'artiste. Parce que par exemple, vous avez pu écrire dans Le Monde, je vous cite, je crois, qu'il fallait inviter le monde artistique à reprendre une compréhension politique de son rôle. Alors quand on dit ça, on se dit, qu'est-ce qu'il dit là? On revient à l'artiste engagé, comme on disait, ou alors je me tourne vers Jean-François Roger qui connaît bien le cinéma, on parlait des fictions de gauche, vous savez, dans les années 70 pour les films de Costa-Gavras, qui n'étaient pas si mauvais que ça d'ailleurs, à mon humble avis. C'est-à-dire, de quoi est-il question? Est-ce qu'il faut faire retour à l'artiste engagé, Bernard Stiegler?
Non, c'est pas du tout ce que je crois. J'ai jamais cru d'ailleurs à cette figure de l'engagement, même si je respecte des gens comme Picasso qui étaient engagés aux côtés du Parti communiste ou d'autres qui étaient engagés aux côtés du Parti du gaullisme, etc. Comme Malraux. Bon. Mais je crois que toute œuvre d'art ouvre. C'est ce que veut dire une œuvre. Une œuvre ouvre. Et qu'est-ce qu'elle ouvre? Elle ouvre un avenir. Notre sensibilité, nos yeux, nos oreilles, notre tact, notre goût sont inachevés. L'être humain, depuis le début de l'être humain, n'a cessé d'élargir ses capacités de sentir. L'élargissement de ses capacités de sentir constitue des formes de socialisation et de sublimation qui créent du lien social, ce que Aristote appelait de la philia. La philia est d'abord une expression de la sensibilité. L'artiste, en tant qu'il ouvre une sensibilité, est quelqu'un qui travaille à la constitution de ce que j'appelle une individuation collective, c'est-à-dire qu'il crée du lien social. Aujourd'hui, il y a une guerre esthétique, parce que on a pris le contrôle dans l'économie des technologies du sensible pour faire en sorte d'attirer la libido des consommateurs sur les besoins de la consommation et de la production. Cette captation est destructrice de la libido, mais aussi de l'esprit, mais aussi de tout ce qui consiste à développer de la sublimité. Je donne un exemple. Un enfant de 10 ans, ou de 12 ans, qui est bombardé par le marketing, et dont la libido est canalisée par toutes sortes de médias, par la publicité, par les campagnes promotionnelles, etc. Cet enfant, sa libido se détourne progressivement, parce qu'elle est canalisée, d'autres objets, comme l'école, les parents, les camarades, etc., etc. C'est un processus que j'appelle de la désublimation. Ce processus-là est ruineux. Et pour les artistes, il est catastrophique, parce que les artistes se coupent de plus en plus de leur public. Donc moi je dis que les artistes doivent se mobiliser, non pas dans un parti politique, pas de s'engager aux côtés, mais doivent repenser leur place dans l'individuation psychique et collective, et en relation avec ces processus de captation de la libido.
Sachant que Bernard Stiegler, cette guerre esthétique dont vous parlez, c'est une guerre qui est faite à l'encontre de qui et de quoi? De la différence?
C'est une guerre.
C'est la singularité artistique. C'est une guerre qui est faite à la singularité. Plus que jamais insupportable.
La singularité artistique est un obstacle, c'est une barrière. De même qu'il y a des barrières géographiques, qu'il y a des barrières douanières, qu'il y a des barrières de toutes sortes à la circulation des marchandises, il y a des barrières esthétiques. Le problème du grand capitalisme industriel, c'est de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire de massifier et donc de désingulariser les comportements, de faire que les comportements soient de plus en plus standardisés et contrôlables. À partir de ce moment-là, la guerre est déclarée à la singularité. Moi, je crois que ce modèle industriel est caduque, mais je crois qu'il est possible de développer d'autres modèles industriels qui, au contraire, intensifient la singularité. Alors, il y a des artistes, évidemment. Le Bauhaus, par exemple, avait pensé son travail du côté du design, du côté de l'architecture, etc., au service d'une société industrielle. Et parfois, il y a des artistes qui développent des idées artistiques qui sont ensuite récupérées par le marché, mais qui sont, à mon avis, dans la récupération, profondément détournées de leur finalité. Je pense que par rapport à ça, il faut que le monde artistique prenne des positions, non pas du tout d'hostilité à la vie industrielle, mais de reconstitution d'une possibilité de libido dans le monde industriel qui est le nôtre aujourd'hui et qui sera de plus en plus industriel.
Merci beaucoup Bernard Stiegler. De la misère symbolique, c'est le tome 2, La catastrophe du sensible. C'est publié comme d'habitude chez Galilée. Il est bientôt 18h54 sur France Inter. Il est grand temps de retrouver Jean-François Roger.
Et plus tu désires une chose et plus de toi s'éloigne cette chose. C'est de Baudelaire, ça, je le crois. Je suis pas sûr, je m'en fous n'importe comment. Chère,
Jean-François Roger, bonsoir. Vous avez été très sage pendant notre conversation. C'est à vous de parler.
Voilà, merci Frédéric. Vous n'avez pas été sans remarquer les affiches qu'on voit beaucoup dans Paris cette semaine, qui sont des affiches visiblement d'un film de guerre, qui est un film de guerre coréen, qui s'appelle Frères de sang. Le titre original c'est Taegi Cook, et désigne l'emblème, le drapeau sud-coréen. Alors, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que nous, on a pu apprécier depuis quelques années la diversité du cinéma coréen. On connaît des auteurs, des artistes, on sait que ce cinéma est très très riche. Alors ce qui est intéressant d'abord avec ce film, c'est que c'est d'abord un film commercial. Ça a été un énorme succès du cinéma coréen sur le marché national coréen. C'est un film qui a battu le cinéma hollywoodien sur le marché coréen et qui a
c'est
été,
le
je dirais...
Poulain plus les choristes
c'est un
coréens.
Peu, oui, c'est un peu... Je n'irai pas
en
jusque-là.
En termes de succès,
en termes
je vous
de succès. Non, mais c'est vrai que c'est votre remarque n'est pas si bête que ça. C'est vrai que ça désigne l'extrême vitalité d'un cinéma qui peut être dominant sur son propre marché. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui sont susceptibles de tirer la bourre au cinéma américain, au cinéma hollywoodien. Donc, voilà un indice, un emblème un peu de cette vitalité, en tout cas économique. Alors, le film est réalisé par un jeune cinéaste en plus, s'appelle Kang Jae-gyu, qui multiplie les succès. Et alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est évidemment d'abord son succès. Qu'est-ce qui peut expliquer le succès du film? C'est à la fois son côté hollywoodien, il a piqué des trucs au cinéma américain, et en même temps, on voit bien que c'est un sujet coréen. Le film part de la réalité, d'un documentaire montré à la télévision. Il y a quelques semaines, quelques mois, des recherches étaient faites sur les champs de bataille de la guerre de Corée, et on retrouve les restes de soldats qui ont été tués, des ossements, un long travail d'identification est fait, et 50 ans après le conflit, des gens apprennent la mort de leur mari, de leur père, de leur grand-père, parce que le corps vient seulement d'être identifié. À partir de ça, le cinéaste a imaginé un film de guerre. L'histoire de deux frères, qui sont enrôlés au début de la guerre de Corée, donc au printemps 1950, et l'un est un cireur de chaussures, l'autre, plus jeune que lui, est un jeune étudiant, et celui qui est cireur de chaussures veut tout faire pour que son frère n'aille pas à la guerre, pour qu'il soit réformé, qu'il retourne auprès de sa vieille mère, qui est toute seule, etc. C'est très mélodramatique. Et pour ça, le frère, donc le personnage accepte les missions les plus dangereuses. Et il passe de l'état du guerrier, du combattant héroïque, médaillé, à l'atroce tueur. À un moment donné, il se prend au jeu, il se met à fusiller les prisonniers. Alors le film démontre que la guerre de Corée les atrocités se faisaient dans les deux camps. Donc ça, c'est intéressant pour un cinéma qui a quand même longtemps vécu sur la propagande nationaliste. Donc il y a cet itinéraire-là, et le personnage passe même à la fin au statut de traître, puisqu'il va rejoindre la Corée du Nord. Donc le film est assez complexe, et il désigne la guerre de Corée comme étant une tragédie sur laquelle on peut de part finalement les individus. Alors ce qui est intéressant, ce qu'il désigne un peu le film aussi, enfin son caractère un peu particulier, c'est que il est très expressionnel. sionistes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une sentimentalité un peu hystérique, il y a des chromos candides qui désignaient la douceur de vivre avant la guerre, et puis il y a de longues scènes de guerre,
c'est ça,
atroces,
qui vous plaît, hein.
Cruelles.
La sentimentalité hystérique, ça vous plaît.
Écoutez, Non, il y a des scènes de guerre atroces, cruelles, filmées avec les moyens modernes, des effets spéciaux digitaux, etc. C'est plus violent que Le Soldat Ryan de Spielberg, par exemple, qui pourrait être le modèle du film. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré ce cinéaste et je lui ai posé la question du cinéma coréen, notamment du fait, une des choses qui explique la vitalité du cinéma coréen, c'est qu'il est soutenu par l'État, à la fin dans les années 50, par souci de nationalisme, pas du tout par souci de diversité culturelle et évidente, l'État avait mis en place des quotas de production, c'est-à-dire que pour importer un film étranger, il fallait produire des films coréens. Donc ce système de quotas est maintenu. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la vitalité, la diversité quantitative du cinéma coréen. Je lui ai posé la question du système des quotas qui est aujourd'hui menacé. Les Américains veulent faire dépendre la signature d'accords commerciaux à la disparition des quotas.
Ils veulent le marché, quoi, voilà. On en parlait.
Et
oui.
J'ai demandé à ce cinéaste ce qu'il pensait des quotas. Il m'a dit ceci, il m'a dit mon film n'a pas besoin de quotas, mais il faut les garder parce que c'est important que les cinéastes ont Sang-soo, par exemple, cinéaste lui personnel, d'auteur, très peu de public, soit aidé. C'est un peu aujourd'hui comme si Gérard Jugnot ou Luc Besson disaient il faut conserver le système d'aide des films parce qu'il faut que Rivette et Philippe Garrel continuent de faire des films.
Très bonne chute.
On peut rêver, non?
Mais, oui, on peut rêver. Merci beaucoup Jean-François Roger. Demain dans Charivari, Guy Bedos, portez-vous bien. Ciao.
Maïf, c'est quoi être assureur militant?
Eh bien, imaginons un enfant assis à une table. Et sur cette table, une assiette et un chèque. L'assiette est vide car sa mère est immobilisée, un accident. Et le chèque de l'assurance est là pour les aider. Vous en connaissez des chèques qui font à manger, vous? Et si vous posiez la question à la Maïf? Quand vous avez besoin d'une aide à domicile, la Maïf vous envoie une aide à domicile. Et pas juste un chèque. Maïf, assureur militant.
Ce soir sur France 2, Lynn Renault et Guy Bedos prennent un enfant sous leur aile dans une comédie inédite.
Et si nous parlions un peu de notre petit voleur?
C'est incroyable qu'il nous ait choisis comme grands-parents de substitution.
Une rencontre pas comme les autres pour une famille pas comme les autres. Ce soir sur France 2, l'air est plus vif sur France 2.
Auditeurs de France Inter, vous écoutez chaque dimanche soir Le Masque et la Plume. Aidez-nous aujourd'hui à préparer son 50e anniversaire. Faites-nous partager vos émotions ou vos indignations, vos éclats de rire et votre passion. Écrivez-nous à France Inter, 50e anniversaire du Masque et la Plume, pièce 1319, 116 avenue du Président.